au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Bien heureux de vous retrouver en ce lundi 12 janvier avec un petit fond de grippe. Ça a été, assez difficile la semaine dernière. L'influenza frappe pas mal fort. À l'émission aujourd'hui, on reçoit le gouverneur des Prédateurs, Rémi Champoux. Il sera question de la première classique hivernale de la Ligue Junior 3A qui s'en vient là, du côté de Saint-Félix-de-Valois le 1er février. Également avec Pierre Paquette, on va discuter des ambitions impérialistes de Donald Trump. Mathieu Bélanger, notre analyste politique, sera avec nous. On va revenir sur les événements de Minneapolis. Jacques Fortin, directeur général de la Naudière internationale, va parler d'intelligence artificielle. Claude Lavallée sera avec nous, président de la Fédération des infirmiers infirmières du Québec, section la Naudière, pour parler de pénurie de personnel infirmier. Mais tout d'abord, le Bloc québécois qui persiste et signe. Le gouvernement Carney rate, selon lui, une belle occasion de favoriser l'émergence d'une économie plus verte alors que le pétrole canadien est potentiellement en péril. Et ce danger est généré par l'intention manifeste du président américain Donald Trump par rapport au pétrole vénézuélien. Il veut carrément s'en emparer, le voler, quoi. Régent Turgeon a discuté de tout ça avec le député de Repentigny, Patrick Bonin.
Monsieur Bonin, là, avec les derniers événements au Venezuela, on entend l'administration Trump dire qu'elle va recevoir 10 millions de barils de pétrole de ce pays-là. Quel impact possible voyez-vous que ça puisse avoir sur l'industrie pétrolière canadienne?
À court terme, on sait qu'il va quand même y avoir des millions de barils, mais ça reste relativement restreint en termes de quantité. Et le problème pour le Venezuela, c'est qu'ils n'ont pas de capacité d'augmenter rapidement leur production de pétrole, qui a déjà été beaucoup plus élevée, près de 3 millions de barils par jour, et là, sont sous le 1 million. Et évidemment, les États-Unis consomment énormément, c'est près de 20 millions, donc ça ne viendra pas combler la demande aux États-Unis. Ça peut remplacer une partie du pétrole canadien, le pétrole lourd des sables bitumineux, qui est similaire, ils ont des raffineries, ils en ont besoin de pétrole lourd, mais ça va prendre des dizaines de milliards d'investissements au Venezuela, ce qui n'est pas fait. Monsieur Trump a beau dire qu'il veut le faire. Donc, c'est pas du jour au lendemain que la situation de la consommation et de l'approvisionnement de pétrole aux États-Unis va changer. Mais oui, il va y avoir, on le voit déjà, un argument qui vont dire il faut qu'on trouve des débouchés pour le pétrole canadien, se départir des États-Unis, construire des nouveaux pipelines. Et là, on voit exactement le même discours. C'est pas nouveau, c'est une nouvelle excuse, je dirais, pour Monsieur Carney de vouloir supporter des projets pétroliers et gaziers qui sont déjà hautement financés par le gouvernement.
Dans ce contexte-là, peut-on penser que ce serait une belle occasion pour justement revenir à la charge, faire la promotion des énergies vertes auxquelles tient tant le Bloc québécois?
On le sait, si on regarde la science, là, c'est clair, et la réalité des changements climatiques qui nous frappent, les feux de forêt, les inondations, les sécheresses, là, on est dedans. Et le problème principal, ce sont les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Donc, il faut surtout pas redoubler d'ardeur à développer ça comme veut faire M. Trump, mais il faut développer les autres énergies qui sont déjà en augmentation massive au niveau international, soit les énergies renouvelables, soit les moyens de s'affranchir du pétrole et du gaz. Et ça, ben, ça permet plusieurs choses. Évidemment, oui, de lutter contre les changements climatiques. C'est bon pour le portefeuille, particulièrement des Québécois, parce qu'on importe quand même pour plus de 10 milliards de dollars en pétrole et en gaz au Québec. Ça, c'est de l'argent qui sort versus faire de l'électrification, qui est beaucoup plus avantageux. On se positionne d'un point de vue, évidemment, économie d'énergie aussi. On n'est pas dépendant d'un prix fluctuant du baril de pétrole et de l'importation, qui est quand même majeure. Et on développe toute la on appelle ça des grappes essentiellement, que ce soit au niveau du transport collectif, que ce soit au niveau des bâtiments, que ce soit au niveau de nos industries, de nos PME, de développer cette souveraineté-là énergétique. On a tout à gagner à le faire. Et si on suit les États-Unis actuellement, ben on s'en va à l'encontre de ce qui se passe avec la Chine, avec la Californie, par exemple, aussi, avec l'Europe, qui sont en train de développer les technologies, développer les emplois et de s'assurer d'être autonome. Donc ça, c'est là que l'avenir, elle est. 50% des véhicules vendus en Chine aujourd'hui, neufs, sont électriques. Ils sont les maîtres au niveau du solaire, de l'éolien, des batteries, du stockage, oui, des véhicules électriques. Donc, si au Québec, on ne développe pas ça, et si on ralentit l'électrification, que ce soit dans les transports, dans les bâtiments, eh bien, on ne créera pas ces emplois-là, et on va rester dépendant d'un pétrole qui cause des changements climatiques, mais aussi alimente la guerre, très clairement, comme on le voit avec M. Trump.
Est-ce qu'il n'y aura pas justement un nouveau débat à faire à ce moment-là sur les politiques énergétiques au Canada? Parce qu'on sait que le lobby pétrolier reste encore très fort.
Non seulement il reste très fort, mais il est très actif. C'est le lobby probablement le plus pesant actuellement à Ottawa. Et on l'a vu, là, il y a un nouveau gouvernement libéral qui s'est lancé comme on l'a jamais vu dans l'approbation des projets pétroliers et gaziers, et de même enlever, soustraire des lois comme les lois de protection environnementale pour permettre d'accélérer ces projets-là. Le Québec n'a rien à gagner là-dedans, rien du tout. Et ce qu'on a actuellement, c'est un lobby pétrolier qui dicte les politiques au niveau canadien. Et pendant ce temps-là, ça retarde toute la lutte au changement climatique, ça retarde les alternatives. On est les rois au Québec et les reines de la production d'électricité renouvelable, par exemple. Même chose pour l'électrification des transports. On est beaucoup plus loin au Canada. Même chose pour l'électrification des bâtiments. Et là, on se fait tirer en arrière avec un gouvernement fédéral qui met des milliards dans le pétrole et le gaz, qui, par exemple, suspend l'obligation pour les manufacturiers automobiles de vendre des véhicules électriques. Donc, cette gestion-là, dominée aussi par les banques canadiennes, qui sont les plus grandes financières des énergies fossiles dans le monde, c'est plus que 1 000 milliards de dollars qui ont été investis par les banques canadiennes depuis 2015 dans les hydrocarbures, le pétrole et le gaz. Ce qu'on peut faire, être les meilleurs, c'est se fixer des objectifs de s'affranchir des énergies fossiles, pas du jour au lendemain, mais de faire une sortie rapide, et on a tout à gagner d'un point de vue santé, d'un point de vue environnement, d'un point de vue économique de la province, mais aussi des portefeuilles des gens. Et vous le voyez avec le coût, par exemple, des véhicules électriques, à quel point c'est avantageux à moyen terme lorsque vous faites des économies d'essence, et vous êtes bien content de le faire.
C'est le message que vous allez transporter aux communes quand les travaux vont recommencer le 26 janvier?
Oui, clairement, parce que au Québec, on peut être les leaders. Il faut arrêter d'être retardé par le gouvernement fédéral qui met non seulement des bâtons dans nos roues, mais qui finance hautement, est en train de développer encore une vision d'il y a 20 ans. Qu'il ne faudrait plus avoir si on est sérieux dans la lutte au changement climatique, si on veut développer l'économie de l'avenir, si on veut améliorer notre santé, si on veut être plus compétitif au niveau de nos entreprises aussi. C'est la voie de l'avenir et malheureusement, ben on n'a pas un gouvernement fédéral qui nous aide là-dedans. Ils ont abandonné. C'est pas pour rien que là, que Stephen Guilbeault a décidé de quitter son poste de ministre, là, l'ancien ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Eh bien, c'est parce que ce gouvernement-là est en train de tout démanteler le plan d'action de lutte au changement climatique, qui est un plan économique aussi, que M. Guilbeault avait mis en place. Et je pense que c'est très clair. Le vernis a craqué. M. Carney n'est pas vert. M. Carney, c'est du noir pétrole, ses habits. Et il le dit ouvertement, sans gêne.
Voilà, c'était le député de Repentigny, le bloquiste Patrick Bonnet, avec qui Régent Turgeon a eu l'occasion de s'entretenir un peu plus tôt. 16h14, dans un moment, Claude Lavallée, elle est présidente de la FIC, section Lanaudière. Il sera question de pénurie de personnel infirmier.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ, à télécharger sur Android et Apple.
Vieillir chez soi, c'est précieux. Chez Aide à domicile d'Autré, nous sommes complices de votre qualité de vie en vous offrant un accompagnement chaleureux, professionnel et à faible coût. Entretien ménager, préparation de repas et courses, nous sommes là pour vous permettre de demeurer dans le confort de votre domicile aussi longtemps que possible. Nos services s'adressent aux personnes aînées ou en perte d'autonomie dans toutes les municipalités de la MRC d'Autré. Parce qu'un quotidien plus doux fait toute la différence. Contactez Aide à domicile d'Autré au 450-404-2219, poste 2.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Didas-Dépanneur des Lacs, à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie-Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beau-Soir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur l'escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Avez-vous vos billets pour le spectacle du 40e de CFNJ? Dépêchez-vous, c'est dans 5 jours. Faut pas manquer ça. Le samedi 17 janvier, c'est toute une soirée qui vous attend au Centre culturel Desjardins de Joliette. Un événement unique avec près d'une vingtaine d'artistes trad de la région qui vont se relayer pour faire la fête avec vous. Vous allez en être essoufflé de plaisir. Oui, vraiment, les 40 ans de CFNJ, ça se fête en grand. Billets disponibles à spectaclejoliette.com. Spectacle au pluriel, joliette.com. On a hâte de vous voir. CFNJ.
Lanaudière PM. Santé.
Ouais, ben comme partout ailleurs, Lanaudière échappe pas à la pénurie de main-d'œuvre au niveau du personnel infirmier qui frappe l'ensemble du Québec. Et François Morin a eu l'occasion de s'entretenir avec la présidente de la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, la section Lanaudière, Claude Lavallée. Là-dessus, on a parlé, oui, aussi de la pénurie de personnel, mais également des enjeux de sécurité qui apparaissent dans les établissements.
Si je regarde depuis septembre 2025, on était à environ à 114 personnes en invalidité, là, toutes titres confondues, infirmières, infirmières, inhalothérapeutes. Et si je regarde en date d'aujourd'hui, le 12 janvier 2026, on serait à 521 personnes qui sont en invalidité. Il n'y a aucun là-dedans, là, il n'y a pas de CNESST, là, des maladies lésions professionnelles, c'est vraiment au niveau de l'assurance salaire. Alors oui, on voit qu'il y a une hausse depuis l'automne et en date d'aujourd'hui. La seule chose que je voudrais qu'on distingue, par contre, c'est sur les 521, nous, au niveau de nos tableaux, on n'est pas capable d'extraire ceux qui sont en retour progressif ou en travaux légers. Alors, j'appelle quand même une certaine vigilance là-dessus. Mais oui, il y a une hausse là au niveau de l'invalidité. Et au niveau aussi, là, on appelle ça de l'invalidité de cause de maladie. Souvent, là-dedans, on va trouver des troubles d'adaptation, dépression, surcharge de travail, fatigue, épuisement, qui sont déclarés nécessairement en CNESST, mais en assurance salaire. Là, on retrouve à peu près, là, je vous dirais, autour de plus de 96% dernièrement, là, sur ces maladies-là.
Ça veut dire que, en tout cas, si on lit comme il faut les données, on se rend bien compte que les promesses d'attirer des ressources n'ont pas tellement porté fruit, puisque effectivement, il y a un fort épuisement là, de la part du personnel.
Ben, c'est sûr qu'au moment où on se parle, tu sais, si on regarde au niveau des deux urgences, autant au nord qu'au sud, il y a un achalandage. Les gens ont besoin de soins. La population a besoin de soins. Alors, on a besoin de personnel. Alors là, les gens, hein, ça rentre par la porte d'entrée de l'urgence. Faut laisser des lits, faut laisser des civières, ça monte sur les étages. On dédouble des chambres. On a même ouvert des lits dans les MDA. Alors, vous savez, hein, les maisons des aînés. Alors, on a ouvert des lits dans les MDA parce qu'à un moment donné, ces patients-là, faut qu'on les mette, ils ont besoin de soins. Alors, faut les mettre à certains endroits.
Compte tenu de la situation qui prévaut actuellement dans les urgences, on parle beaucoup de cas d'infection, l'influenza et tout ça. Est-ce que ça devient de plus en plus problématique? Est-ce qu'il y a un questionnement là, au niveau de la sécurité?
Bien, si je regarde, je suis allée visiter l'urgence sud la semaine dernière. Comme je vous dis, on ouvre beaucoup de corridors parce qu'il faut mettre les gens aux endroits, hein, faut les coucher, ces patients-là. Bon. Et je vais donner un exemple. Ben, à certains endroits, il n'y a pas de rideau d'isolement. OK? Alors, ce que ça fait, c'est que s'il n'y a pas de rideau d'isolement, ben les gens sont couchés sur des civières dans des corridors. Puis un corridor, ça sert à quoi? Ben ça sert à circuler, hein? Un corridor, c'est pas une chambre. Donc, les gens sont en isolement, souvent c'est en isolement préventif, où on en a vu un cas, c'était un isolement gouttelette, ça veut dire la toux, l'éternuement, toutes les sphères peuvent être contaminées, la table de chevet, etc. Mais il n'y a pas de rideau. Et les gens circulent. Alors, c'est sûr qu'au niveau de la prévention, ben c'est sûr que le fait que ces patients-là ne sont pas isolés, ben ça peut amener à contaminer soit le personnel, puis on ne sait pas qu'on est contaminé, alors on contamine d'autres gens, ou sans le savoir, on a peut-être contaminé quelqu'un qui est passé par là ou quoi que ce soit.
Je voudrais revenir sur le fait qu'on manque d'effectifs, notamment dans les urgences et également sur les étages. Au niveau de l'employeur, on en est où au niveau des discussions? Est-ce qu'on voit poindre un recrutement potentiel?
Ben, je pense que l'employeur fait le travail qu'il a à faire. Là. Je pense pas que l'employeur se ferme les yeux puis qu'il dit tout va bien. Mais tu sais, là, l'année 2026 débute. On aimerait, là, je pense qu'on va devoir avoir une grande collaboration, autant syndicale que patronale, pour justement se faire une projection 2026 aussi, parce qu'il faut pas oublier, il y a quand même l'agrandissement du CHPLG qui s'en vient. Alors, tu sais, il y a un grand tout, je pense, qu'il va falloir faire avec Lanaudière pour le recrutement du personnel, là, avec cet agrandissement-là aussi.
En terminant, il y a une porte qui est quand même ouverte. Je ne sais pas si les deux hôpitaux de Lanaudière vivent la même situation ou traversent les mêmes problématiques, notamment du côté de Montréal. À certains endroits, on a installé des détecteurs de métal. Est-ce qu'on en est là également chez nous?
Ben, comme je vous dis, tu sais, on est préoccupé par les urgences. Je pense que l'employeur aussi est préoccupé par les urgences. Alors, on a eu des discussions la semaine passée, nous, le syndicat et les responsables des urgences nord et sud. Alors, on est à voir là, qu'est-ce qui peut être mis en place pour la sécurité autant du personnel, mais au niveau des salles d'urgence, c'est vraiment au niveau de la clientèle, parce qu'on retrouve plus de clientèle que de professionnels dans la salle d'attente des urgences. Alors oui, il y a eu des discussions avec l'employeur, mais le dossier est en tout début, alors je voudrais pas trop m'avancer sur des choses, mais autant le syndicat et l'employeur, je pense que toutes les deux, on est préoccupés par ce dossier-là, et en espérant là, qu'on puisse arriver à s'entendre et à mettre des choses en place pour la sécurité des patients et des professionnels.
Parce qu'il faut-il le rappeler, l'employeur a quand même consenti à rappeler des gardiens de sécurité, une mesure qui avait été, je dis pas abolie, mais réduite.
Au niveau du Nord, l'employeur là, a remis un agent de sécurité à temps complet là, de 20h le soir à 8h le matin. Je pourrais pas répondre au niveau du Sud parce que j'ai pas eu les discussions et je serais pas en mesure de vous dire là, au niveau du Sud qu'est-ce qui est mis en place. Mais soyez assurés que le syndicat, justement, a eu une rencontre avec l'employeur et les membres de l'Urgence Sud. Alors, on voit là, que l'employeur est quand même préoccupé de son côté, lui aussi.
Voilà, c'était Claude Lavallée, la présidente de l'AFIC Lanaudière.
Lanaudière PM, technologie.
L'intelligence artificielle qui fait de plus en plus partie de nos vies et aussi de celles des gens d'affaires. Il y a l'organisme Lanaudière International qui a vu venir la vague et a mis en place là, une série de formations destinées à aider les entrepreneurs à ajuster leurs opérations en fonction de cette nouvelle réalité là, qu'est l'intelligence artificielle. Régent Turgeon a eu l'occasion de s'entretenir avec le directeur général de Lanaudière International, Jacques Fortin.
Monsieur Fortin, nos entreprises lanaudoises doivent vivre dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi pour elle? C'est un nouveau défi, ça?
Oui, c'est un défi de société. Donc, autant pour les entreprises que pour nous comme individus, l'impact de l'intelligence artificielle est déjà important, mais va être énorme sur toutes nos façons de faire, nos façons de produire, nos façons de communiquer, nos façons d'interagir, tant avec les consommateurs qu'entre entreprises, qu'avec les fournisseurs. Donc, oui, c'est un impact majeur qu'il va y avoir, puis à laquelle on doit s'adapter.
Permettez-moi de citer une publication de votre organisation à l'intention de vos gens d'affaires. On dit, dans un contexte mondial en constante évolution, garder une longueur d'avance grâce à une veille stratégique efficace appuyée par l'intelligence artificielle. Donc, on doit comprendre que c'est un outil de travail maintenant indispensable pour suivre les marchés, peut-être même plus particulièrement les marchés boursiers.
Oui, en fait, la veille stratégique, c'est une des quatre formations. On a un programme de quatre formations à chaque année. Cette année, chacune des formations devait être orientée vers l'intelligence artificielle. Donc, on a demandé à nos formateurs dont celle que vous citez sur la veille stratégique, de voir ben, comment est-ce que des outils d'intelligence artificielle viennent impacter cette activité-là qu'on essaie de pousser dans les entreprises depuis quelques années. Mais on l'a fait au niveau de l'optimisation logistique, la conformité douanière. On a eu une formation aussi à ce niveau-là le 1er décembre qui identifiait les éléments d'intelligence artificielle qui avaient un impact sur toutes les activités douanières, dont on parle évidemment énormément, et aussi sur tout le positionnement numérique de l'entreprise. On a une vie numérique comme individu, mais les entreprises ont une vie numérique encore plus, encore plus importante et sur laquelle elles doivent veiller. Puis ça, l'intelligence artificielle va évidemment avoir un impact important. C'est des outils qu'on doit maîtriser. Donc, on a une formation aussi à cet effet-là cette année.
On parle d'une formation qui aura lieu le 27 janvier à Montréal. Est-ce que c'est une formation qui, pour une entreprise, va par de suite nécessiter des investissements? Est-ce qu'il faut aller chercher des employés qualifiés pour être capable de comprendre ça puis d'en appliquer les ramifications?
Oui, en fait, ce qu'on fait avec cette formation-là, particulièrement sur la veille stratégique, c'est d'initier les entreprises à la veille stratégique, de voir les éléments d'intelligence artificielle, comment les outils d'intelligence artificielle peuvent être utiles, et ensuite de les intégrer dans l'entreprise. C'est pas des investissements comme une chaîne de production, là. Donc c'est en termes de gestion, d'analyse de marché, de marketing, oui, ça va impliquer soit de la formation pour les gens qui sont déjà en place ou l'embauche de personnes compétentes.
Est-ce qu'on doit craindre des effets négatifs, justement, de l'intelligence artificielle? On ne peut pas toujours remplacer un employé par un robot, un logiciel, un algorithme. C'est un facteur important, là, l'intelligence artificielle.
Non, absolument. Puis c'est un peu comme, il faut le voir, un peu comme au début de l'ère du numérique, l'ère de l'informatisation. Lorsqu'on est arrivé ces périodes-là, on s'est senti menacé de la même façon qu'on se sent menacé par l'intelligence artificielle. C'est un bon réflexe à avoir, étant donné les quantités d'informations qui circulent. Mais c'est beaucoup plus un élément qu'on va intégrer à la vie des entreprises puis à la vie humaine. Donc, oui, il faut être attentif. Craindre les effets négatifs, il faut essayer de les voir puis d'y pallier tant que faire se peut, mais c'est inévitable. C'est sûr qu'on ne pourra pas dire on met la switch à off puis on arrête ça. Là. On est condamné.
Est-ce que l'intelligence artificielle, M. Fortin, au final, là, c'est la voie de l'avenir en affaires?
C'est transversal, donc c'est intégré. C'est comme un ordinateur. Lorsque l'ordinateur est apparu, oui, c'est la voie. Ça fait partie de l'avenir de l'entreprise. C'est inévitable. C'est le boulevard de l'avenir passe à travers l'intelligence artificielle.
Vous êtes à l'aise avec ça, vous?
Nécessairement. Ça fait partie de la vie, mais on va s'y adapter. Puis on met les mesures en place pour aider les
Régent Turgeon qui s'entretenait avec le directeur général de l'organisme La Naudière internationale, Jacques Fortin.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, métropolitaine pour Charles de Gaulle, ça demeure quand même assez dense depuis Bourget et ce jusqu'à environ 500 mètres passé le boulevard Henri-Bourassa. La traversée de la rivière des Prairies est quand même facile. Repentigny 40 Est, on circule sans problème. La 341 entre la 40 et la rivière L'Assomption, là, c'est passablement lourd. Pont-le-Gardeur, ça va très bien à l'approche, soit par Notre-Dame ou encore par Sherbrooke. 25 Nord, c'est depuis le boulevard Lévesque, du côté de Laval, là où c'est lourd, et ce, jusqu'à peut-être un kilomètre avant le boulevard des Mille-Îles. Côté Terrebonne, oui, on circule sans problème, 25 Nord, pont Sophie-Masson, ça se passe bien en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. En direction ouest, on circule sans problème, direction ouest, un peu plus nombreux à l'approche de la montée du Mai. Dans un instant, les nouvelles avec Pierre Jubinville.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre-auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Pour entretenir vos prothèses, vous devez les faire tremper à tous les jours dans une solution de trempage. Prenez bien soin de lire les instructions de la solution que vous employez et de suivre les conseils d'usage du fabricant. Dans la majeure partie du temps, si vous optez pour les pastilles, sachez que l'eau et les pastilles doivent être changées quotidiennement dans votre boîtier. Tandis que si vous utilisez une solution en poudre, vous changez l'eau et la poudre à chaque semaine. Bien sûr, avant de les faire tremper, il est bien important de les nettoyer à la brosse.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Le 17 janvier prochain, CFNJ vous convie à un événement unique pour célébrer ses 40 ans. 40 ans. 40 ans. Une soirée grandiose au Centre culturel Desjardins de Joliette. En première partie, Véronique Gravel et ses musiciens avec invités spéciaux Danny et Paul Larèche. Puis, place à la soirée la plus festive qui soit. Pierre-Luc Dupuis, André Brunet et Mathieu Marion reçoivent une vingtaine d'invités du milieu trad sur scène.
Martin Brisson, Francis Morin, Martin Soulière, Gaston Lepage, Patrick Desmarais, Steve Larochelle, Nicolas Froment, Yves Marion, Martin Brien, Simon Baudry, Daniel Perron, Kevin Nadeau, Christian Thériault, Éric Baudry, Nathalie Quentin, Frédéric Bourgeois, Jean Quentin, Philippe Jeté.
Tous réunis pour vous faire vivre une soirée unique.
Unique.
Le 17 janvier, 19h30, au Centre culturel Desjardins de Joliette. Faites partie de l'événement. Billets en vente maintenant à spectacle au pluriel joliette.com. Les 40 ans de CFNJ, ça se fête en grand, grand, grand.
L'actualité de ce lundi 12 janvier en manchette. Le régime des mollahs iraniens est ébranlé. Charles Milliard continue d'accumuler les appuis au Parti libéral. Et la patinoire de la rivière L'Assomption à Joliette ouvre enfin. C'est un plaisir de retrouver le collègue Pierre Jubainville. Est-ce qu'on peut encore se souhaiter la bonne année le 12 janvier?
Oui, c'est
partagé, ouais. Bonne année, Pierre. Des centaines de victimes, tout d'abord, là, en Iran.
Oui, on peut parler de répression sanglante. La contestation du régime continue de prendre de l'ampleur jour après jour. Il y a d'importantes manifestations qui ont lieu donc quotidiennement. Et on souhaite faire tomber le régime, la dictature qui est en place depuis 1979. Le régime aurait tué plus de 600 personnes. Il y a même les États-Unis qui étudient la possibilité d'intervenir. Le professeur Thomas Junot est spécialiste du Moyen-Orient.
La source principale de survie du régime, c'est sa capacité répressive. Et tant que la police, les forces de sécurité, les réservistes, les militaires, les fameux gardiens de la Révolution, tant que eux demeurent loyaux au régime, puis jusqu'ici c'est le cas, le régime va être capable de survivre. Mais le régime est dans une position beaucoup plus vulnérable que par le passé.
La campagne à la direction du Parti libéral du Québec est officiellement lancée.
Oui, et Charles Milliard est le seul candidat en lice pour l'instant. Sera-t-il consacré chef? On verra. Mais il y a plusieurs, une dizaine de députés qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils pensent que Milliard est le meilleur candidat pour succéder à Pablo Rodriguez. Ces députés sont Franz Benjamin, Brigitte Garceau, entre autres, et Désiré Maigre. Monsieur Milliard reconnaît toutefois que la marque libérale a été entaché l'automne dernier.
C'est ma famille politique depuis toujours. Je suis très lucide sur le travail qu'il y a à faire dans les prochains mois. Alors, je ne me berce pas d'illusions, mais je suis porté par la conviction que les Québécois ont besoin de plus de choix en octobre. Et c'est ce qu'on va proposer au PLQ.
Oui, Denis Coderre.
Il s'en vient vite en vélo.
Ben oui, je me pose la question.
Il la court.
Est-ce qu'on va assister, Pierre, à un couronnement?
Probablement. Écoute, Guy Cormier a annoncé aujourd'hui, l'ancien patron de Desjardins, qu'il ne tentera pas sa chance. Le seul, pour l'instant, on verra demain dans une conférence de presse, c'est le cultivateur de la Beauce, Mario Roy, qui doit rencontrer la presse, sauf que il doit encore 18 000 $ au parti.
Oh!
Et
au parti?
Oui, ah, oui, il n'a pas payé sa dette. C'est,
ah, fait penser à les dettes. Fait penser à Coderre, ça, ouais, les dettes.
Ben, c'est peut-être son ami.
Les urgences de Lanaudière, encore très achalandées.
Oui, taux d'occupation à Pierre-le-Gardère de 145%. Durée moyenne de séjour sur Civière de 21h20. C'est quand même 8 heures de moins que la semaine dernière. Et au CHDL, un taux d'occupation de 124%, durée moyenne de séjour de 17 heures.
Grosse question qu'on se pose, est-ce que le vouvoiement va changer quelque chose au manque de civisme là, dans les écoles?
Le président du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mathieu Lessard, croit que ça peut aider, mais que c'est un outil parmi tant d'autres pour amener un peu de civisme dans les classes. Selon M. Lessard, la mesure ne fera pas de miracle. Le civisme s'apprend d'abord à la maison. Il est évidemment encadré aussi par le milieu scolaire.
Massivement, les gens disaient que ce n'était pas ce qui allait régler les problématiques de civisme. Ça fait partie des outils qui peuvent exister dans une boîte à outils. Mais est-ce qu'il y a un changement drastique au quotidien? Il y a plusieurs écoles qui avaient déjà le vouvoiement dans leur code de vie, qui avaient déjà adopté ces pratiques-là. C'est plus la gestion entourant le vouvoiement qui devient complexe. Hein? On l'impose. Donc, quand on dit qu'on impose quelque chose, ben ça nous prend des outils pour être capable de s'assurer de son application adéquate.
Et finalement, le rond de glace sur la rivière L'Assomption est en fait ouvert.
Du moins, la boucle, petite boucle.
Je charrie en disant le rond de glace, là, mais c'est parce qu'elle est plus petite, la patinoire qu'elle a, qu'on a connue par le passé. Là.
500 mètres seulement.
Il y aura quand même
un parcours de 1,8 km, mais la météo, il faut se le rappeler, n'était pas du côté des patineurs, avec les nombreuses averses du week-end. Il y a Pierre Corbin d'Hydrométéo. Qui sont de la glace. Il poursuit la surveillance afin d'ouvrir graduellement le reste du parcours. Et il nous a dit que le froid reviendra jeudi. Et ça devrait permettre de rouvrir l'ensemble de la patinoire.
Je suis pas un patineur, mais j'aimais bien aller marcher sur la patinoire. Oh, on va pouvoir marcher encore, faire de la randonnée sur la rivière. C'est magnifique.
Oui.
Merci Pierre Jubinville. Il est 16h37.
Lanaudière PR.
Lanaudière PR.
Claude Fournel.
Lanaudière PM, politique internationale.
Eh ben oui, on parle des États-Unis, évidemment, les événements de Minneapolis et la gestion de ces événements qui divisent de plus en plus le peuple américain. On sait qu'il va y avoir une enquête sur ce qui a mené là un policier du ICE à abattre une citoyenne la semaine passée. Le hic, c'est que le gouvernement Trump a statué et a validé aussi la thèse de la légitime défense du policier. François Morin en discute avec notre analyste politique, Mathieu Bélanger.
Il y a eu beaucoup de débats, effectivement, sur qu'est-ce qui s'est passé. Il y aura une enquête. Le problème, c'est que le gouvernement donne déjà la conclusion de l'enquête et, sachant comment que Donald Trump et son régime fonctionnent, ben on peut imaginer que ça va être difficile pour l'enquête d'avoir au minimum l'apparence d'impartialité, étant donné que le gouvernement, lorsqu'il a pris une lecture des faits, ben impose ou tente en tout cas d'imposer le plus possible aux instances inférieures. Donc, par exemple, si une enquête, mais sa vision des choses. Et là, ici, ça fait en sorte que justement beaucoup de gens aux États-Unis qui ne croient pas qu'une enquête peut être faite de façon impartiale, qui croient que cette police-là de l'immigration, la ICE, est utilisée par le gouvernement de Donald Trump comme une... puis on voit dans certaines analyses là qu'on parle jusqu'à des actions qui s'approchent du fascisme, où on tente là d'arrêter toutes les personnes finalement qui peuvent être de couleur jusqu'à un certain point, surtout évidemment celles qui n'ont pas un statut complètement légal, juste complètement, parce que parfois on est il y a beaucoup de zones grises qui peuvent exister. Ça crée beaucoup de frustration aux États-Unis. On est exactement dans les zones de clivage qui font le plus mal sur les questions raciales, sur la question justement de l'apport des immigrants au sens général, incluant parfois les immigrants qui sont arrivés de façon régulière aux États-Unis. Ça fait pas bien paraître le gouvernement, c'est évident. mais qu'il y en a vu d'autres aussi. Là, on se souviendra pendant le premier mandat de Donald Trump, le mouvement Black Lives Matter. Donc, on est encore un peu à ça qui est réactivé ici, sous d'autres vocables. Comme c'est souvent le cas, c'est pas clair où tout ça va nous mener. Mais chose certaine, là, les tensions augmentent beaucoup aux États-Unis présentement à cause de ces événements-là.
Et de plus en plus, on s'en rend bien compte que le pays est divisé là, plus que jamais.
Le pays est très divisé, et ça, ça date pas encore une fois de Donald Trump, ça date d'il y a fort longtemps, de la période de l'esclavage. C'est des démons sur lesquels les États-Unis ont jamais réussi vraiment, à résoudre. Et là, effectivement, c'est la question raciale aux États-Unis, là, se superpose avec la question, est-ce que Donald Trump veut instaurer un régime dictatorial, a-t-il un penchant fasciste ou non? Tout ça se superpose justement dans ces enjeux-là, des agissements de la police ICE, en particulier, qui est parfois considéré par certains, par des détracteurs, en tout cas de Donald Trump, comme s'approchant d'une police privée du régime. C'est pas tout à fait ça, bien évidemment, on sait que le gouvernement pèse beaucoup sur cette police-là. Il a donné des rôles qu'on ne voyait pas ni sous le premier mandat de Donald Trump, encore moins sous les autres mandats des autres présidents avant. Donc, il y a eu beaucoup de recrutement pour la police ICE avec l'arrivée du deuxième mandat de Donald Trump. Beaucoup de recrutement et parfois en accéléré, ce qui peut parfois entraîner aussi justement une mauvaise formation peut-être de certains agents. Donc, les tensions demeurent exacerbées. Le gouvernement qui tente de défendre coûte que coûte cette police-là et qui agit... parfois avec force, souvent avec force même, on l'a vu là, depuis justement le deuxième mandat de Donald Trump, des agents cagoulés qui cachent leur identité, leur matricule pour procéder à certaines arrestations. Donc ça éveille effectivement des mauvais souvenirs pour les personnes qui ont étudié d'autres régimes qui sont moins démocratiques et qu'on voit un peu ces façons de faire là. Et les républicains se servent de tout ça aussi pour montrer, ben voyez, puis c'est le discours qu'on entend présentement, les gens qui s'opposent à ICE sont des terroristes, ou du moins certains d'entre eux, et donc il faut réagir avec force contre ces gens-là pour rétablir l'autorité. C'est nous, le gouvernement, qui pouvons rétablir l'autorité. Donc on sait là où on en est, en ce début d'année, justement, où tant au niveau international, finalement, qu'au niveau local, le gouvernement américain tente de montrer que c'est le président qui est tough, qui est un homme fort et qui va imposer son autorité au sein des États-Unis et sur le continent américain, voire au-delà également.
En terminant, le moins que l'on puisse dire, c'est que Donald Trump est égal à lui-même. Il se dit un grand défenseur de la paix qui devrait avoir le prix Nobel, mais il fait rien à l'interne, rien sur son territoire à lui pour que la paix perdure.
Au niveau international aussi, et c'est une des choses pour Donald Trump, sa vision est que la paix, puis le dit explicitement, la paix s'amène par la force. Je vais montrer que je suis le plus fort, et donc les autres vont se soumettre à moi, et donc il y aura de la paix. C'est l'image, là, une image que le dirigeant de l'OTAN avait déjà dit à Donald Trump pour le flatter dans le sens du poil. C'est l'image du papa ou de la maman, plus l'image masculine qui l'emporte ici, c'est le papa qui va chicaner ses deux enfants, les envoie chacun dans leur chambre, il utilise son statut de puissance pour imposer l'ordre. C'est la vision de Donald Trump, et le problème pour lui, par contre, c'est que le comité Nobel de la paix ne va pas juste compter le nombre de traités qui peuvent être de traités de paix qui peuvent être signés ou de cessez-le-feu qui peuvent être signés. Et il y a une grande différence entre un cessez-le-feu, un traité de paix et une paix réelle. Les traités peuvent être violés ou pas respectés. Mais donc, on peut juste, au niveau du comité du prix Nobel, pas juste regarder ça, on va regarder aussi un message plus général de paix, des agissements au niveau local aussi, dans le pays. Est-ce qu'on amène les droits humains et ces valeurs-là de l'avant ou pas? Et le discours de Donald Trump souvent va en contradiction avec les idéaux qui sont défendus par le prix Nobel. Ça serait étonnant à court terme À moins, évidemment, qu'il se passe quelque chose de majeur, bien sûr. Mais à court terme, ça serait étonnant que Donald Trump obtienne le prix Nobel, ne serait-ce qu'à cause de ça. Son discours ne cadre pas avec les valeurs du dit prix.
Ben oui, le prix Nobel à Trump, franchement. Il est 16h45, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger. On va rester un peu dans la même veine dans les prochaines minutes avec Pierre Paquette. On va discuter cette fois des ambitions impérialistes de Donald Trump.
Après les fêtes, vos cartes sont pleines? CFNJ vous propose une carte pleine pas mal plus payante avec son super Radio Bingo. Et jusqu'au 11 février, vous avez deux fois plus de chances de gagner. En plus des bingos du dimanche matin à 10h05, avec 5000$ à gagner avec les trois jeux, pour un temps limité, CFNJ vous offre ses bingos spéciaux avec carte pleine à 5000$ tous les mercredis à 19h30. Il y a des cartes pleines qui sont plus agréables que d'autres. Où se procurer vos cartes du Super Radio Bingo? La liste des dépositaires est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Les orthèses plantaires. Efficaces pour soulager plusieurs pathologies des pieds. Fabriquées sur mesure, elles s'adaptent à votre style de vie et vos chaussures. Prenez rendez-vous pour un examen biomécanique. 450-398-PIED. 398-7433 ou podiatrejoliette.com.
Chez Moto du Charme, découvrez les souffleuses Honda, une qualité et une fiabilité inégalées. Nous avons des souffleuses éco-énergétiques, robustes et fiables pour rendre votre hiver beaucoup plus agréable et contrer les tempêtes. Chez Moto du Charme, nous sommes aussi équipés des génératrices Honda, la marque de génératrice portative la plus vendue au monde. La meilleure pour vous réchauffer ou vous éclairer à tout moment. Que ce soit pour un achat de VTT ou de produits mécaniques Honda, Moto du Charme est votre concessionnaire de référence.
Avez-vous vos billets pour le spectacle du 40e de CFNJ? Dépêchez-vous, c'est dans 5 jours. Faut pas manquer ça. Le samedi 17 janvier, c'est toute une soirée qui vous attend au Centre culturel Desjardins de Joliette. Un événement unique avec près d'une vingtaine d'artistes trad de la région qui vont se relayer pour faire la fête avec vous. Vous allez en être essoufflés de plaisir. Oui, vraiment, les 40 ans de CFNJ, ça se fête en grand. Billets disponibles à spectaclejoliette.com. Spectacle au pluriel, joliette.com. On a hâte de vous voir.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Ouais, on essaie de retrouver l'ami Pierre Paquette au téléphone, puis difficile à rejoindre, Pierre. On devrait établir le contact téléphonique dans les prochaines minutes. Et dans l'actualité, c'est qu'on va parler avec Pierre, justement, des ambitions impérialistes de Donald Trump. Excusez-moi, j'ai couru pour retrouver Pierre Paquette. Donald Trump qui poursuit donc ses menaces d'annexion du Groenland, malgré l'impact qu'une telle action là, pourrait avoir sur ses relations diplomatiques avec les pays de l'OTAN. Et Trump estime que les États-Unis ont besoin de ce territoire, que le Danemark ne pourrait rien faire pour empêcher une intervention américaine. Et en plus de s'exposer à des sanctions importantes, le projet est vraiment pas populaire auprès des Américains. On va écouter là-dessus l'ancien ministre des Affaires étrangères du Canada, Stéphane Dion.
Et ma prédiction, si jamais il envahissait ce territoire européen, c'est que vous auriez un branle-bas économique très très fort, du boycott des produits américains, y compris les achats militaires, boycott olympique. À ce moment-là, vous auriez une réaction très forte, je pense, aux États-Unis même. Des initiatives comme envahir le Groenland, c'est pas du tout populaire aux États-Unis.
Et Pierre Paquette, justement, on l'a retrouvé. Salut Pierre.
Oui. Bonjour, ça va? Ça va.
Stéphane Dion le disait que, en plus de s'exposer à des sanctions importantes, les Américains et Trump, le projet d'envahir le Groenland est pas populaire auprès même des Américains, mais c'est pas ça qui va freiner les ambitions de Trump.
Non, mais c'est ça qui est, je suis convaincu que la majorité des Américains sont contre cet impérialisme-là. Le Venezuela, c'est sûr qu'il y avait Maduro, ils ont donné l'impression qu'ils avaient libéré les Vénézuéliens d'un dictateur. On s'aperçoit qu'il n'y a rien de changé, puis c'est là où on voit qu'il y a une certaine forme d'amateurisme chez Trump, c'est-à-dire l'opération pour enlever Maduro était bien organisée, mais tout ce qui a suivi a été mal organisé.
Oui, et ça va être dans le cas du Venezuela, là, ça va être de changer un dictateur de gauche pour un dictateur de droite. Ça va ressembler à ça, puis c'est de voler les ressources naturelles. Puis dans le cas du Groenland, Trump parle de sécurité, mais le fond de l'affaire, c'est les ressources naturelles, là.
Non, exactement. Puis le Groenland fait partie de l'Amérique du Nord, mais c'est un territoire autonome affilié
au Danemark,
qui lui fait partie de l'Union européenne. Là, du côté des Européens, il y a quelque chose à faire, là, c'est évident. Mais ce qui est le plus inquiétant, là, c'est que moi, je suis convaincu que si on se rend aux élections de mi-mandat, la sanction va être très sévère contre Trump. Le problème, c'est que j'ai de plus en plus peur qu'il trouve une excuse pour ne pas tenir les élections de mi-mandat.
Ben c'est ça. Est-ce qu'il y aura aussi encore, il pousse à la blague, qu'il pourrait rester pour un autre mandat, mais on sait bien que quand Trump
il pourrait faire comme Poutine, c'est-à-dire mettre Vance président, puis lui comme vice-président, puis ça serait exactement comme c'est présentement. Alors c'est très inquiétant, pas seulement pour nous, là, parce que le Canada, évidemment, c'est un voisin des États-Unis, puis on est directement impliqué, mais aussi pour la démocratie américaine. Moi, je suis de plus en plus inquiet, là, entre autres, là, sur la faisabilité ou le fait que les élections de mi-mandat vont être tenues. Il va trouver un prétexte probablement, puis il a commencé à le dire en disant qu'il fallait absolument qu'il reste jusqu'à la fin de son mandat. Je pense pas qu'il va se présenter une autre fois. Il va trouver un successeur qui va être une marionnette, là. Mais c'est extrêmement inquiétant, oui, puis ça défie complètement la logique. Bon, c'est sûr, au plan international, s'il attaque le Groenland d'une façon ou d'une autre, c'est contre des pays membres de l'OTAN. Alors, donc, ça veut dire que c'est la fin de l'OTAN, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Et là, on n'a pas parlé de Cuba.
Oui, Cuba, mais même chose, mais ça, c'est les pays d'Amérique du Sud, le Brésil en particulier, pas le Venezuela, mais l'Argentine, où c'est un de ses alliés qui se trouve là, mais
il y a eu des menaces envers la Colombie.
Oui, exactement. Alors ça, c'est vraiment inquiétant, je suis convaincu que la base MAGA de Trump est en désaccord complètement avec ça, parce que c'est la philosophie du mouvement MAGA de s'occuper de ce qui se passe dans le monde. Pour ce mouvement-là là, de droite puis qui a appuyé Trump, il faut d'abord s'occuper des affaires américaines. Et c'est justement pour pas s'occuper des affaires américaines internes que Trump a parti ses différentes opérations au plan international. C'est pour faire oublier que l'inflation est toujours aussi présente, que le taux de chômage augmente, qu'il a rempli aucune des promesses qu'il avait fait. Et donc, je pense que du côté de sa base, il va y avoir aussi une désaffection. Mais encore une fois, s'il n'y a pas d'élection de mi-mandat, on ne pourra pas voir les effets de cette désaffection du mouvement MAGA. Alors, extrêmement inquiétant comme année à venir.
La dernière personnalité qu'on a pu voir avec autant d'ambition impérialiste, c'était Napoléon Ier. Et rappelons que Napoléon Ier a envahi notamment la Russie, l'Espagne, l'Autriche, la Prusse, le Portugal, la Belgique, a créé des royaumes avec l'Italie, Naples, tout ça. Et il a fini par frapper son Waterloo. Quel sera le Waterloo de Trump?
Ben moi, je pense que ça va être l'opinion publique américaine qui va être son Waterloo. Les gens vont pas accepter ça. Et puis, à un moment donné, il va y avoir des contre-coups au sein même des républicains qui vont s'apercevoir que ça a aucun avenir. Parce que toutes les expériences américaines en termes d'invasion d'un pays, que ce soit l'Irak, le Vietnam, l'Afghanistan, ça s'est terminé par des échecs lamentables. Alors, c'est ce qui est en train de miroiter pour la fin du mandat de Trump. Et on le voit au Venezuela, là, il n'y a plus... d'ailleurs, j'ai remarqué que son CV a changé aujourd'hui. Ouais. Vous allez voir son CV, c'est marqué maintenant président par intérim du Venezuela. Alors, pour vous dire que quand tu parlais de Napoléon, là, ça ressemble pas mal à le même égo. D'ailleurs, il fait très 19e siècle là-dedans. Il y a beaucoup d'analystes qui l'ont fait ressortir. Mais c'est ça. Donc, ça va mal finir, c'est évident. Mais ça finira pas instantanément, puis demain matin. Alors, donc, les prochains mois vont être à surveiller de proche.
Oui, ben justement. Bon, c'est peut-être pas au niveau d'une invasion, mais quand on regarde regarde la situation du côté de l'Iran actuellement, l'Iran qui est isolé du monde, qui oppresse sa population, Trump qui pratique des menaces du côté de l'Iran, et là, quand même, du côté de l'Iran, il y a bien des gens qui pourraient appuyer Donald Trump, là.
Ouais, mais je pense qu'ils sont pas naïfs. Oui, ils vont être contents si le régime des ayatollahs disparaît, comme les Vénézuéliens sont contents que Maduro soit parti, mais ils sont pas dupes non plus. C'est remplacé, comme tu le mentionnais tout à l'heure, un dictateur de gauche par un dictateur de droite, puis on n'est pas plus avancé en termes de liberté, de démocratie et de développement économique. Et puis c'est un peu la même chose pour les Iraniens. Je pense qu'ils sont pas dupes du tout du fait que le Trump, s'il y a des visées sur l'Iran, c'est pour le pétrole en particulier. On sait que c'est un gros producteur de pétrole. Mm-hmm. Et il y a quand même une résistance organisée depuis de nombreuses années contre les ayatollahs. Et donc, ces gens-là vont se faire entendre aussi. Alors, ça serait... À un moment donné, il va avoir une limite aussi à sa capacité, là, je parle de Trump, à intervenir sur tous les champs. L'armée américaine, là, a beau être grosse, là, mais elle peut pas être partout en même temps. Alors, il va avoir des lendemains qui vont pas chanter du tout.
Pour en revenir au Groenland, quand Trump mentionne qu'il faut que les États-Unis s'emparent coûte que coûte du Groenland, que ce soit par la force ou en achetant le Groenland, on n'achète pas une terre comme ça, faut-il le mentionner, là, mais lui, oui. pour un multimilliardaire comme lui, tout peut s'acheter, là, mais selon lui, la Chine ou encore la Russie pourraient mettre la patte sur le Groenland.
Ouais, moi, je crois pas que les Chinois puis les Russes s'aventureraient là-dedans. Déjà, les Américains sont très présents au Groenland. Hein, là, ils ont une très grosse base militaire. Il y a des lois, des traités, c'est-à-dire, qui ont été signés avec le Danemark et le Groenland qui permettent aux entreprises américaines d'exploiter les ressources. C'est vraiment plus... Je dirais au plan comment je pourrais dire ça, de l'image. Tu parlais de Napoléon, là, c'est justement il veut avoir l'air de celui qui gagne. Là où c'est dangereux pour le Canada, c'est que en haut, t'as le passage du nord-ouest, là, et puis c'est sûr que à partir du moment où est-ce qu'il y aurait des visées sur le Groenland, puis ça se réaliserait. Il va y avoir une présence américaine dans le Grand Nord canadien. Et puis là, c'est là où est-ce que je pense que la souveraineté canadienne risque d'être amochée.
Parce que rappelons-nous aussi de ces menaces pour le 51e État.
Oui, exactement. Mais tu sais, ça peut se faire de façon... tu sais, 51e État, si tu contrôles plus le Grand Nord, là, t'es rendu pas mal le 51e État.
Oui, voilà. Merci beaucoup, Pierre Paquette.
Salut à mercredi.
Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. Mathieu Bélanger, Pierre Jubinville, François Morin, Régent Turgeon, ainsi que Pierre Paquette. Ici Claude Fourdel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Manquez pas dans un instant Nicolas Bellemare qui sera là pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Puis nous, ben, on sera là demain. Oui, on va se retrouver demain à 16h pour une autre édition de Lanaudière PM. Salut, bonne soirée.